Chapitre 14. L'Église triomphante. Solennité de tous les saints. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Romains, chapitre 8, verset 37. Le chapitre 8e de l'Épître aux Romains compte parmi les pages les plus pathétiques de la Sainte Écriture. Saint Paul y annonce la glorification des chrétiens. On a l'impression qu'emporté par la vision du sort sublime qui nous échoit, au lieu de dicter une lettre, il entonne un chant de triomphe. L'avenir que Dieu réserve à ceux qui l'aiment lui fait oublier les douleurs du temps présent. L'amour que Jésus-Christ nous porte éveille dans son cœur une réciprocité si ardente que rien au monde n'en pourra relâcher les liens. Tribulation, détresse, persécution, la faim ou le dénuement, les dangers, le glaive même, qu'est-ce que tout cela? Mais ici, il hésite un instant, il ne trouve pas le mot qui traduirait exactement sa pensée. Ce mot n'existe pas, il doit le forger lui-même. Dans toutes ces épreuves, dit-il, nous surtriomphons, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Il ne faut pas moins que ce néologisme pour nous donner une idée de la victoire des saints dont nous célébrons aujourd'hui la solennité. En vérité, ils sont plus que vainqueurs, car originairement, ils étaient des vaincus et ces vaincus sont devenus victorieux grâce au Christ qui nous a tant aimés. Aussi est-ce lui d'abord que la liturgie nous fait acclamer. C'est au Seigneur que nous devons la joie de ce jour, introit. En couronnant les mérites des saints, il couronne à vrai dire ses propres dons. Préface. Il est lui-même la couronne des saints, invitatoire des matines. Avec les hiérarchies célestes et tous les élus marqués du sceau du Dieu vivant, nous glorifions l'agneau immolé et victorieux. Épître. Tous ceux que nous fêtons sont venus de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Suite de la péricope. Or, cette super victoire, sans commune mesure avec les mérites de l'homme et qui dépasse toutes les ambitions humaines, le Seigneur nous appelle à y prendre part. Nous aussi, Dieu nous a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, l'aîné d'une multitude de frères. C'est toujours saint Paul qui parle. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains, chapitre 8, verset 29. Observez que ce dernier verbe est comme les précédents au passé. De la part de Dieu, c'est chose faite. Il ne nous reste qu'à acquiescer généreusement à son dessein. Cependant, nous tremblons, car le temps de notre épreuve n'est pas achevé. Tiendrons-nous jusqu'au bout? Nous sommes si faibles. Mais qui condamnerait les élus de Dieu? Réplique l'apôtre. Puisque le Christ Jésus, qui est mort, que dis-je, ressuscité et assis à la droite de Dieu, intercède pour nous. Chapitre 8, verset 34. Par l'intercession incessante de celui qui nous aime, nous devons être plus que vainqueurs. Contemplons donc la félicité de nos frères qui ont ici-bas mené le même combat que nous et dont la prière amplifie en notre faveur l'intercession de Jésus-Christ. Sur la route où nous peinons, l'Église nous montre le ciel magnifique où elle nous conduit. Sous la persécution de Domitien, l'apôtre saint Jean avait été condamné aux travaux forcés dans l'île de Patmos, où il était privé sans doute de célébrer chaque semaine les saints mystères avec ses frères. Or voici qu'un dimanche, le jour du Seigneur, une compensation merveilleuse lui est ménagée. Ravi en extase, il voit se dérouler la liturgie céleste à laquelle participent les habitants du ciel. Combien sont-ils? Le voyant cherche à les dénombrer, mais il doit y renoncer. Derrière les justes d'Israël, il contemple une foule immense dont personne n'aurait pu évaluer la quantité. Il y a de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les langues. N'espérons pas connaître maintenant ce qui se passe derrière le voile que Dieu souleva pour son apôtre. Jean en a dit assez pour que l'Église nous autorise à célébrer la béatitude de ces innombrables enfants dont l'âme est admise à la vision de Dieu. À côté de ces fils qui ont illustré leur martyre ou leur vertu héroïque, beaucoup d'autres dont la terre n'a pas conservé le souvenir sont entrés également dans la joie du Seigneur. Parmi ces inconnus que Dieu a reconnus pour être des siens, quelques-uns tiennent à vous par les liens du sang ou de l'affection. Aïeuls dont vous n'avez pas oublié la vie exemplaire, chers petits-enfants prématurément enlevés à votre tendresse, soldats tombés dans l'accomplissement d'un devoir tragique et qui avaient fait à Dieu l'offrande de leur vie. Parents qui pleuraient vos fils et qui iraient vous recueillir tout à l'heure sur leur tombe lorsque leur tour viendra de rendre à Dieu vos comptes avant même que vous n'ayez présenté le talent que vous aurez acquis sur terre, une voix plaidera pour vous au tribunal. Seigneur, ils vous ont donné un élu. La tendresse du Père des cieux ne voudra-t-elle pas vous réunir à ceux dont vous lui avez offert le sacrifice douloureux? Dans la foule immense de la Toussaint, il ne nous est pas défendu non plus de chercher les ouvriers de la 11e heure, sauvés de justesse par l'infinie miséricorde de celui qui nous a aimés. Combien nous avons eu raison de prier pour eux sans nous décourager. Corrigeons cependant au passage la méprise de plusieurs qui voient seulement de cette sonnalité une commémoration complémentaire des saints non canonisés, les autres recevant leur tribu d'honneur au cours de l'année. En réalité, la fête de tous les saints fut instituée avant celle de presque tous ceux qui sont inscrits au calendrier. Durant les deux premiers siècles, la religion des chrétiens ne se détachait pas du visage rayonnant de Jésus-Christ. À partir du IIIe siècle, l'usage s'introduisit de rendre des hommages aux martyrs, le jour anniversaire de leur mort, en célébrant l'Eucharistie auprès de leur tombeau. Ce culte des martyrs purement local se confondait avec le culte rendu au Sauveur, le martyr par excellence, dont les autres, ses témoins et ses imitateurs, complétaient les souffrances, pour employer le langage de saint Paul. Mais parce que les honneurs décernés aux martyrs étaient strictement limités au lieu de leur sépulture, l'idée se fit jour et prit corps de vénérer globalement dans toute l'Église la mémoire de tous les martyrs et par la suite de tous les saints. Telle est l'origine de la fête d'aujourd'hui qui prit naissance en Syrie au IVe siècle, où elle était célébrée dans le temps pascal en relation avec la victoire du Christ ressuscité. Notre fête justifie son nom. Elle salue la gloire de tous les enfants de Dieu que la rédemption de Jésus-Christ a sanctifié et glorifié. C'est la fête de l'Église déjà triomphante, la fête des membres définitifs du corps mystique, avant-garde de l'armée des élus qui escortera le Seigneur au jour de l'avènement. Ne manquez pas de noter que le bonheur du ciel est un bonheur collectif. Du ciel comme de l'enfer, notre Seigneur a parlé surtout en images. Comment nous aurait-il décrit un monde entièrement spirituel dont la réalité échappe à nos concepts humains? Force était de nous le représenter à l'aide d'analogies. Le Maître a d'ailleurs repris les notions familières à la piété juive. Dans l'Évangile, le ciel est un festin, une fête nuptiale, un royaume. Ce n'est pas un tête-à-tête avec Dieu, mais la joie collective de tous les enfants, personnellement aimés ensemble par le Père. Tous sont assis à la même table, quoique à une place différente. Tous entourent le roi, quoique échelonnés autour du même trône. Jésus nous l'a dit à cette fois en clair, « Dans la maison de mon Père, il y a un grand nombre de demeures. » De nombreuses demeures, voilà qui correspond à la foule innombrable aperçue par saint Jean, mais qui nous laisse entendre que le bonheur du ciel comporte une certaine diversité. Selon saint Augustin, le grand nombre de demeures signifie que les récompenses varient avec la différence des mérites au sein d'une seule et même éternité bienheureuse. Dans l'unique maison du Père, tous partagent le triomphe de Jésus-Christ, hors de proportion avec leurs états de service. Néanmoins, tous les soldats du Christ n'ont pas fait preuve de la même bravoure dans les combats. N'est-il pas juste que les plus valeureux soient associés plus étroitement à la victoire du chef? D'où il suit que la gloire et la félicité des saints sont à la fois inégales et communes. L'égalité ne régnera pas plus dans le ciel que sur la terre. La loi des œuvres divines n'est pas l'égalité, mais l'équité. Dieu attribue à chacun de ses enfants les dons appropriés à la fonction qu'il lui assigne. Aussi sommes-nous en cette vie diversement doués. Cette inégalité s'accentue encore du fait que les conditions extérieures de succès ne sont pas identiques pour tous, et surtout par suite du libre usage que nous faisons des dons que nous avons reçus. Notre liberté pourra même renverser l'inégalité initiale. Jésus admire la foi du centurion de Capharnaüm comme il s'étonne de l'incrédulité des Nazaréens. Cette inégalité se trouve au ciel, car les élus ayant reçu des grâces inégales y ont répondu avec une fidélité et une générosité inégales. Entre un chrétien qui a conservé l'innocence baptismale et un autre qui a recouvré la grâce de son baptême après des années d'indifférence ou de péché, entre celui qui répare quelques erreurs en se dépensant sans compter au service du Christ et un autre qui n'a fait ni grand bien ni grand mal, la récompense, pour être équitable, doit être inégale. Dans l'unique maison du Père, il n'habite pas la même demeure. On s'est demandé comment le saint qui jouit d'une moindre récompense peut être pleinement heureux. S'il constate qu'il y a une béatitude plus grande que la sienne, ne souffrira-t-il pas de s'en être privé par sa négligence? Cette question tient seulement à ce que nous prêtons aux habitants du ciel les sentiments que nous éprouvons sur la terre. Or au ciel, on ne connaît plus ni désir ni regret. Le dernier des saints ne saurait porter envie à ses frères plus illustres, pas plus qu'il ne peut se souvenir de ses propres imperfections. Tout ce qui diminuerait ou altérerait le bonheur des saints est banni du ciel, qui est par définition la satisfaction de tout désir. Rien ne peut manquer à l'élu qui possède le souverain bien. Chacun reçoit tout le bonheur qu'il est capable de recevoir. Les réceptivités sont inégales, mais toutes sont entièrement comblées. Un verre de petite ou de grande taille rempli d'eau jusqu'au bord ne peuvent ni l'un ni l'autre contenir une goutte de plus. Ainsi, tous les saints goûtent le maximum de bonheur correspondant à leur prédestination et à leur mérite. Leur inégalité ne les attriste point. Tous contemplent la gloire de la très sainte Vierge Marie, de beaucoup supérieure à la leur. Cette vue provoque leur admiration et ils se réjouissent de l'honneur que la sainteté de Marie rend à Dieu. Bien loin que la supériorité des grands saints diminue le bonheur des autres, elle est au contraire un des éléments de leur propre félicité. Car le ciel est un bonheur collectif. La louange des saints est une symphonie. Les parties de chaque exécutant n'ont pas toutes la même importance et ne requièrent pas la même virtuosité, mais toutes sont nécessaires et concourent à un ensemble harmonieux. Dante a bien traduit ce point de l'enseignement théologique lorsque, sur l'élève des bienheureux, voyant arriver un nouveau venu, il met cette exclamation « En voici un qui augmentera nos amours ». Un saint de plus, c'est plus de gloire pour Dieu et plus de joie pour tous. Le bonheur de chacun rend les autres plus heureux. Nul n'y célèbre sa propre victoire, mais la seule victoire du chef. Tous voient Dieu, tous le possèdent. Leur capacité d'amour à tous est pleinement satisfaite. Cependant, tous les saints se ressemblent encore à ceci, que tôt ou tard, à petits ou à grands pas, ils ont suivi la seule route qui mène au ciel, car il n'y en a qu'une, celle des 8 béatitudes. Les uns ont accepté la pauvreté, les autres l'ont recherchée. Tous ont du moins secoué la tyrannie de l'argent. Et parce qu'ils n'ont pas été esclaves de mammon, ils ont su résister aux morsures de l'orgueil. Tous sont entrés au ciel par la seule porte qui y donne accès, la porte basse et étroite de l'humilité. Il n'y a pas de place pour les humbles en enfer, ils sont tous au ciel. Marie, reine du ciel, a été la plus humble des servantes du Seigneur. Saint Paul se déclare sans aucune fin le premier des pécheurs et le dernier des apôtres. Il n'y a pas d'exception. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont pareils à de petits enfants. Ceux-là sont admis à la vision de Dieu dont le cœur s'est résolument fermé à toutes les duplicités. Les convoiteux, les menteurs, les fourbes, les séducteurs, pas plus que les voleurs, les meurtriers et les blasphémateurs, ne sauraient contempler la lumière divine. Mais toutes les consciences probes et délicates, les caractères droits et incorruptibles, les cœurs purs sont promis à la béatitude. C'est être parfait, disait saint Bernard, que d'aspirer sans cesse à le devenir. C'est s'éloigner de la perfection que de cesser d'y prendre. Dieu rassasie au ciel ceux qui ont eu faim de justice et soif de sainteté. Hélas, leurs désirs de grandeur se sont brisés parfois, souvent peut-être au heurt des tentations. Les saints se sont repentis. Ils n'ont pas désespéré. Ils ont continué d'aimer et de vouloir le bien qu'ils accomplissaient avec beaucoup de peine. À quelques-uns même, la soif tardive d'une vie plus pure a valu de pouvoir apprendre au purgatoire les joies d'aimer Dieu. Un dernier soupir peut sauver une âme si c'est un soupir d'amour. Et qu'est-ce qu'un acte de contrition sinon un désir de sainteté ? Cependant, Dieu n'accorderait point aux pécheurs la grâce de la conversion finale s'ils n'avaient fait quelque bien durant leur vie. Et les autres qui vivaient dans l'état de grâce ont témoigné à Dieu leur obéissance en se dévouant à leurs frères. Ils ont été doux, compatissants à toute souffrance, oublieux de toute injure. Ils ont contribué à maintenir dans le monde l'ordre divin en se montrant des artisans de paix parmi les hommes. La perfection, écrit saint Jean de la Croix, n'est pas dans les vertus que l'âme discerne en soi, mais elle se trouve en celle que notre Seigneur voit dans l'âme, l'être scellé pour nous. Au ciel, il ne sera plus jamais question de nos exploits, de nos œuvres difficiles, des sacrifices qui nous ont coûté. Nous en aurons trop parlé ici-bas, et nous en aurons conçu trop de gloire pour que des hauts faits puissent encore glorifier Dieu. Mais nos petites bonnes actions, celles dont on dit « c'est tout naturel » et auxquelles l'on ne pense plus, celles surtout dont nous n'avons jamais été remerciés, voilà de quoi le bien-aimé Sauveur se souviendra. Puisque ce n'était ni par vanité ni par intérêt que nous avions fait le bien, Jésus nous dira que c'est envers lui que nous avons été bons. La vertu qui s'ignore est le chemin du ciel. Mais ce chemin est jalonné par la souffrance. Saint Jean nous montre le Seigneur essuyant les larmes de ses élus. Apocalypse, chapitre 21, verset 9. Tous les saints ont pleuré ici-bas, c'est la loi de toute ascension. Les larmes sont comme le lest dont l'âme s'allège pour s'élever. Heureuse l'âme, celle que provoque en nous la douleur du péché, plus sanctifiante encore les larmes réparatrices que font verser les souffrances physiques ou les chagrins qui déchirent le cœur. Il y a toutefois une épreuve plus noble et une douleur plus méritoire, celle des disciples de Jésus qui endurent persécution pour la justice. Heureux ceux qui ne se résignent pas au triomphe de la violence, mais qui luttent contre l'injustice des plus forts. Heureux ceux qui mènent le combat contre les plaies sociales qui infectent le sang de la race humaine. Heureux ceux qui ont été blessés en défendant les droits des faibles et les causes perdues d'avance. Heureux ceux qui meurent pour rendre témoignage à la vérité. Leur récompense est grande dans les cieux. Que cette fête de la Toussaint ravive nos espérances. Ce ne sont pas seulement les êtres d'exception qui parviennent au ciel. Les serviteurs qu'un Dieu infiniment bon accueille dans sa gloire sont ceux qui se montrent fidèles jusque dans les moindres choses en accomplissant les actions ordinaires de la vie avec un grand courage et un cœur plein d'amour. Notre Père des cieux, Jésus, notre frère, tous les grands saints et nos petits saints à nous, nous appellent au ciel. Ne suivons pas le démon qui nous en détourne, ni le monde qui nous le cache, ni le péché qui nous le ravirait. Après quelques années de lutte, au terme d'une vie qui peut finir demain, derrière la foi et derrière la croix, où, pris d'un peu de patience et de beaucoup d'amour, les bras du plus aimant des pères s'ouvriront pour nous accueillir dans la grande famille des saints. Grâce à celui qui nous a aimés, nous serons plus que vainqueurs.